Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de faire une brève intervention sur Michel Barnier, en montrant comment cet homme, qui paraît lisse, sans humour, est cependant un homme dangereux, car dans la situation actuelle, il est quelqu'un qui préfère les salons du pouvoir à la volonté du peuple, et dans ces salons du pouvoir, on accepte le réarmement économique, le réarmement militaire, et on bascule vers une guerre qui peut même devenir une guerre nucléaire. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut voir Michel Barnier. Contexte, c'est que les Américains, le gouvernement américain, M. Biden, a élaboré une New Nuclear Employment Guidance, un nouveau mode d'emploi du nucléaire, dans lequel on envisage, pour créer une ambiguïté, que le nucléaire pourrait être utilisé en première frappe. C'est abolir toutes les règles de la guerre froide elle-même. En même temps, il y a des missiles installés en Allemagne, 3-4 fois la puissance d'Hiroshima. Mais bien pire, il y en aura en 2006 qui seront de longue portée, hyper véloces, et qui pourront menacer la Russie, et qui créeront une situation dans laquelle, avec ce qui se passe en Europe, avec ce qui se passe dans le monde, on serait au bord d'une guerre. Et Barnier, alors, dans ce contexte, Michel Barnier, dans ce contexte, eh bien, vous vous rappelez peut-être de comment se préparait le référendum de l'Union sur la Constitution européenne. Le référendum dans lequel le peuple français a voté non à 55% le 29 mai 2005. Eh bien, Barnier préparait le oui à ce moment-là. Il préparait le oui, vous vous rappelez, c'était une époque où on voyait, c'est curieux parce que c'est les mêmes qu'on voit pratiquement aujourd'hui, on voyait François Hollande et Nicolas Sarkozy à la une de Paris Match, même costume, même cravate, et tous deux pour le oui, pour cette Europe-là, qui est la fausse Europe. Eh bien, aujourd'hui, Barnier représente exactement cela et cet état d'esprit-là. Après le non du 29 mai 2005, il est parti. On n'a plus voulu. Mais il a préparé avec quelque chose qui s'appelait le groupe Amato. Il a préparé le traité de Lisbonne, qui remplaçait le traité constitutionnel européen, avec à peu près le même contenu, avec des amendements préparés, avec cette habileté diplomatique que peut avoir M. Barnier. Et d'autres. Il ne faut pas l'accuser seul, mais il a joué un rôle prépondérant. Il a joué un rôle prépondérant dans la négociation du Brexit. Bref, c'est un Européen de l'Union européenne, pas un Européen de cette Europe des cathédrales dont parlait le général de Gaulle en disant qu'elle devait être ouverte à tous, pas seulement à ceux qui se rendent habituellement aux cathédrales. C'était une image pour de Gaulle. Eh bien non, pour Michel Barnier, c'est une Europe soumise à un fédérateur extérieur qui sont par-delà les États-Unis d'Amérique, l'oligarchie financière qui occupe les États-Unis d'Amérique. Il faut bien comprendre cette différence, car cette oligarchie financière est contre toutes les nations, tous les peuples, contre la nation France, mais aussi contre la nation États-Unis. Elle entend prévaloir partout et faire prévaloir sa politique, qui est une politique de réarmement militaire, de réarmement économique. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin, comme elle est aux abois, comme son système est en train de s'effondrer, elle a besoin de menacer ceux qui sont à l'extérieur de ce système et les contraindre à obéir, à soumettre. D'où les guerres américaines incessantes, où l'armée américaine protège, évidemment, le complexe militaro-industriel financier, cette oligarchie militaire. Alors, Barnier, à l'échelle européenne, je ne sais pas s'il en est pleinement conscient, mais cela n'a pas beaucoup d'importance, il a été un élément de cette politique-là, de cette soumission constante et de plus en plus grande de l'Union européenne à ses forces qui sont des forces de guerre. dont voilà le Premier ministre que nous choisit Emmanuel Macron, et ils sont tous les deux d'accord sur cette notion de l'Europe. Et ils espèrent aussi, je pense, ils espèrent aussi, que sur la question de l'immigration, Michel Barnier étant plutôt dur, on aura la complaisance du Rassemblement national. Donc voilà la situation. Situation qui doit se définir comme quelque chose qui est décisif. Je ne veux pas dire que tous les jeux, tous les dés sont jetés, non. Mais c'est quelque chose de décisif. Pourquoi ? Parce que, normalement, un budget aurait dû être présenté au Parlement français et devra l'être, selon les textes, devra l'être à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Or, en même temps, nous devons répondre à une procédure de déficit budgétaire excessif. Une procédure enclenchée contre nous par la Commission européenne, par l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, on dit voilà, la France, vous avez plus de 110% de déficit de dette publique, plus de 110% de dette publique par rapport au produit intérieur brut. Et beaucoup plus que 3% de déficit budgétaire, de déficit du budget public. En effet, le solde probable serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du produit intérieur brut en 2024, probablement 6,2% en 2025, par rapport à 4,1% qui était prévu il y a seulement 9 mois. Donc il y a ce déficit. Merci M. Bruno Le Maire qui a organisé cela, est quand même responsable. Et c'est pour M. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qu'en 2016, Michel Barnier avait pris parti aux primaires de la droite. Donc, nous voilà devant une situation qui a été créée par ceux-là même qui diront « on est obligé d'obéir », mais ils ont créé la situation, et obligé d'obéir, on appliquera une politique d'austérité. Et on verra cette politique d'austérité qui nous pend au nez et qu'on décrira comme la France a trop dépensé, on vit au-dessus de ses moyens, toutes ces choses qu'on dira et qui sont fausses parce que on a vécu dans la dette et dans un système de dette et dans un système organisé de dette depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Comme la crise internationale est l'aboutissement de choses qui, depuis longtemps, sont en germe. Et là, évidemment, aujourd'hui, on est à l'échéance. Parce que si la France n'applique pas l'austérité, vous avez la crise en Europe, on sera sous une telle pression qu'un gouvernement comme celui-là, un gouvernement de droite, devra faire quelque chose qui sera pratiquement impossible à imposer. Donc il y aura, en France, une très grave crise politique qui reflétera la crise internationale. Où trouver l'argent ? Eh bien, on imposera les classes moyennes. Mais les classes moyennes, qu'on va réduire de plus en plus à des classes où la vie devient de plus en plus difficile, aux fins de mois, où on est dans le rouge, au 20, au 22 du mois, on va imposer également une politique d'austérité aux collectivités territoriales, aux communes en particulier. Et l'État va dire que c'est la faute des communes. En réalité, pas du tout. C'est l'État qui impose ces conditions aux communes et qui dit, voilà, c'est l'Union européenne aussi. C'est l'Union européenne, oui. C'est l'Union européenne comme cause, mais c'est aussi un alibi. Et c'est la politique qui a été suivie par les divers gouvernements français. Et souvenez-vous, Hollande, Sarkozy avec la cravate, et maintenant Macron, qui se rencontrent tous les trois pour une même politique. C'est cela la réalité de ce qui se passe en France. Or, face à cela, il y a une droite qui appliquera cette politique d'austérité. contre le monde du travail, contre les dépenses sociales. Et qui dira, il faut que les gens travaillent, il faut cesser les allocs, c'est ces gens-là qui sont en danger. Et vous aurez la complicité avec un Rassemblement national qui dit, voilà, ces gens ont trop d'allocs, ce sont des étrangers, ce sont des marginaux. Et on est contre aussi, dira le Front national, contre les hyper-riches. Mais ils mentent. Ils sont dans un système où, étant en accord avec la politique internationale, qui est une soumission à l'oligarchie financière, en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne l'Union européenne, en ce qui concerne l'euro, de fait, le Rassemblement national sera en accord avec cette politique-là. Et c'est cela qui est en train de se passer en France. Indépendamment de la personnalité de ceux qui sont au pouvoir, c'est l'acceptation par ces hommes gris, car ils n'ont pas de pouvoir réel, ils n'ont pas de volonté politique, c'est cette acceptation qui crée la situation actuelle et toute sa gravité. C'est ce que je vais vous dire. Alors on dit, oui, mais Macron a créé une situation qui lui échappe, il est dans une politique qui n'est pas... Peut-être ce qu'il... Oui, non, c'est faux. Ce que Macron est en train d'organiser, c'est l'affrontement entre piranhas, ces poissons, vous savez, qui dévorent la chair humaine, un affrontement entre piranhas dont il espère être le maître. Alors, le maître des horloges, oui, le maître des horloges détraqués. Mais le maître. Nous organisons une réunion annuelle qui, cette fois, est fondamental, le 21 septembre. Vous verrez sur notre site Solidarité et Progrès qu'elle se tiendra donc le samedi matin pour les gens qui sont membres de notre mouvement et le samedi après-midi en ouvert avec des discussions avec différentes personnalités souverainistes non électorales. Car on doit sortir de ce vice à court terme électoral pour penser long et créer une influence qui reporte la France vers son rang et son rôle dans le monde, qui est un rang de défense de la justice, pour faire une belle France, une France dans laquelle chacun peut croire, et non cette France où règne aujourd'hui le pessimisme, et dont il faut sortir, car c'est notre pire ennemi. Donc je vous appelle à cette espérance. Il faut une politique de paix internationale. Notre coalition internationale pour la paix, et je vous demande sur le site de l'Institut Schiller, que vous pouvez trouver sur Internet, d'examiner ce que nous faisons. 500, 600 personnes qui communiquent dans le monde, avec des groupes un peu partout, qui se battent pour cette politique de paix, pour éviter que nous sombrions dans la guerre. Et pour éviter aussi que nous sombrions dans le réarmement économique, qui est la forme, disons, mondaine de parler de la guerre. Car si on fait ce réarmement économique, c'est pour un réarmement militaire. C'est le complexe militaro-industriel que dénonçait Heinz Hanauer en 1961, qui est maintenant un militaro-industriel, financier, politique, de renseignement, qui est un complexe qui est devenu une forme qui contrôle les gouvernements. Et Barnier et Macron sont des hommes contrôlés. C'est comme ça qu'il faut les voir. Et si on veut engager la vraie bataille pour la France, la bataille de la production, la bataille de l'éducation, la bataille de l'alimentation, la bataille du secteur public. Il faut mobiliser quelque chose d'autre qui soit le lien dans notre politique entre ceux qui sont partisans d'une politique internationale pour une nouvelle architecture de paix par des mouvements mutuels, de sécurité en Europe et dans le monde, et de sécurité par le développement économique, et qui, à l'intérieur de notre pays, ont une politique cohérente avec cette politique internationale. C'est là qu'à cette époque de l'histoire, l'international et le national se rejoignent, comme le Zidane de Gaulle lui-même, d'ailleurs pendant la guerre, où ils se rejoignaient. Et c'est cela que nous devons comprendre, que nous soyons dans quelque parti ou avec quelque étiquette que ce soit, par-delà, nous devons comprendre que la souveraineté nationale, la véritable souveraineté, c'est de reconnaître la souveraineté des autres et de la pratiquer vis-à-vis de notre propre peuple. Or, Michel Barnier, je le disais au début, est un danger. car il préfère les allées du pouvoir. Bruxelles, l'Union européenne, les discussions entre gens qualifiés pour servir le système. Il préfère cela à la volonté du peuple. Et que nous voulons réimposer, c'est cette volonté du peuple, non avec de fausses promesses, mais avec des promesses qu'on peut tenir parce qu'on a une politique internationale qui est en accord avec ce que les BRICS vont définir à Kazan le 22 et le 24 octobre, une politique internationale qui est une politique de rupture avec cette politique de l'oligarchie financière qui prévaut dans les pays occidentaux, et en particulier en France, depuis le départ du général de Gaulle. Voilà le défi. Et les gens qui ont un sentiment d'amour de la nation, qui est un sentiment d'amour du peuple, qui est un sentiment d'amour de ceux qui produisent, eh bien ceux-là doivent penser qu'une union par-delà les étiquettes doit pouvoir se réaliser, et c'est à cela que nous travaillons.